le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Europe et on s'interroge sur les nouvelles forces boursières de l'Europe avec Anis Lalou qui est à mes côtés, le directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonsoir Anis.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Alors, la séance du jour est intéressante parce qu'on voit un petit coup de mou sur le secteur du luxe après la publication de Burberry en Angleterre. Et c'est vrai que, je le disais en introduction de l'émission, le luxe, historiquement, est le secteur pour lequel on a envie d'investir en Europe. C'est le secteur sur lequel il n'y a pas de rivaux à l'échelle mondiale. On voit le secteur du luxe qui est un peu en retrait désormais, mais on voit quand même l'Europe boursière qui non seulement fait bien, mais tient tête à Wall Street, au marché américain, y compris au Nasdaq, avec deux secteurs notamment qui ont très longtemps été vus comme des poids morts boursiers pour l'Europe. Le secteur bancaire d'un côté, ouais. Plus 25 depuis le début de l'année pour les banques de la zone euro, pour le secteur. Et le secteur de la tech. Parce que oui, il y a quand même aussi un peu de tech en Europe. Et je voulais bien qu'on passe un peu en revue avec vous, justement, les caractéristiques de ces secteurs. Et est-ce qu'ils font évoluer la perception des investisseurs globaux sur le profil boursier de l'Europe, Anis ?
Oui, absolument. Mais c'est très bien présenté, parce qu'effectivement, on a deux secteurs qui sont en barbelle, en fait. Hein. La technologie, qui est typiquement un secteur qui n'aime pas les taux d'intérêt hauts. Et les banques qui, au contraire, font beaucoup plus d'argent quand les taux sont élevés. Et les banques qui, structurellement, en Europe, ont été complètement négligées, voire traitées de zombies, parce que c'est des sociétés qui n'arrivaient pas à produire des earnings, alors que le régulateur leur demandait de se capitaliser, se surcapitaliser. Et donc aujourd'hui, la donne a bien changé. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui l'illustre bien, parce que ça se voit à un niveau, aujourd'hui, indiciel. Donc la composition indicielle est telle que, effectivement, quand ces opportunités dans le secteur bancaire deviennent attractives ou attrayantes, et quand le secteur de la technologie vient aider, ce qui est structurel aujourd'hui, eh bien, on a une composition quand même dans l'indice européen qui est très différente de ce qui était peut-être il y a 10 ans ou il y a 10 ans ou 15 ans. Donc on le constate. Vous l'avez bien dit sur les chiffres de performance des trois derniers mois où l'Europe, effectivement, un peu plus. Et on le voit aussi hein, dans la composition des investisseurs qui sont aujourd'hui présents dans les banques. On a des investisseurs internationaux, notamment des investisseurs américains qui regardent donc l'aspect value qui devient intéressant parce qu'aujourd'hui, on a un catalyseur en plus de la value.
Et le secteur bancaire est une bonne porte d'entrée pour ces investisseurs qui cherchent peut-être à sortir un peu de la zone dollar, quoi.
Absolument. Ouais. Et pour ces investisseurs qui cherchent à se diversifier dans le secteur des financials, parce que le secteur européen n'est pas un copy-paste du secteur financier américain. Là, on est sur quelque chose de très différent. Le secteur américain n'a pas vu la régulation sévère qu'on a eue ici sur Basel IV. Et donc n'a pas eu à faire face avec autant de sévérité à des taux d'intérêt extrêmement bas, voire négatifs. Donc on est dans une configuration différente. Aujourd'hui, les banques européennes sont surcapitalisées, bénéficient du taux d'intérêt élevé et donc ont un retour de cash flow qui retourne à l'actionnaire. On a des dividend yields qui sont extrêmement intéressants. Et malgré la bonne performance, ces banques-là n'ont pas vraiment rireté puisqu'elles fonctionnent avec leurs earnings aussi.
Les cours de bourse ont violemment monté parfois dans certains cas pour des banques italiennes, des banques espagnoles, mais quand on regarde effectivement des métriques de valorisation, ça n'a pas bougé. Ça veut dire quand même quelque part que le sentiment ou la perception des investisseurs vis-à-vis de ces banques européennes est encore un peu en décalage par rapport à ce qu'on décrit des fondamentaux aujourd'hui de ces banques et de l'environnement réglementaire avec un choc qui est derrière nous a priori aussi.
Exactement, je pense qu'il y a un décalage, c'est une bonne façon de le dire puisqu'on ne voit pas le re-rating s'opérer de la même manière que dans d'autres secteurs. Il ne faut pas oublier, c'est un secteur aussi qui a eu à faire face aussi à beaucoup de fintech et de disruption de la fintech et aujourd'hui aussi les règles ont changé puisque quand on regarde par exemple UniCredit en Italie ou les autres, même les autres banques en Espagne qui sont des banques très digitales aujourd'hui. Hein. Donc le niveau de
concurrence,
concurrence est remis à plat. Donc
Et je dirais que les fintech ont peut-être pas fait les preuves qu'on attendait d'elles également. Hein. Ça c'est pas évident quand même de remplacer les banques, en tout cas sur certains de leurs métiers.
Clairement. Ce qui est peut-être plus facile aussi, c'est d'arriver à un niveau d'égalisation où les banques banques en fait utilisent plus de white label sur la technologie et arrivent à rattraper l'écart. Et donc aujourd'hui, quand elles génèrent des cash flows, ça devient presque plus intéressant que les fintechs qui n'ont pas prouvé la capacité de générer des cash flows. Donc on est quand même sur un barbel très intéressant.
Ah ouais. On va parler de la tech, mais juste pour finir sur les banques. Moi, j'ai connu la période justement post-grande crise financière où les banques européennes, comme vous dites, au pire étaient vues comme des zombies, au mieux étaient vues comme du trading, des valeurs de trading. Pour vous, c'est plus que ça aujourd'hui. Il y a quelque chose de structurel quand même à jouer autour du secteur bancaire européen.
Oui, je pense que oui, parce que et pour l'Europe de manière générale, puisqu'on ne parle pas juste de la valorisation dont on a parlé sur les 15 dernières années. L'Europe est cheap, mais en plus, il y a un catalyseur. Alors, on a une inflexion en fait, des PMI, on le voit. On voit dans les résultats que maintenant, la saison des résultats était OK. Et avec ça, on a une banque centrale européenne qui est supportive, puisqu'on va rentrer dans une période de coupe des taux. Et on l'a vu avec la banque centrale déjà suisse, qui a déjà un petit peu frontronné un petit peu la Fed pour une fois.
Et donc, et la BCE, oui, la Fed et la BCE. Et la BCE, Fed, en l'occurrence, oui.
Et donc, effectivement, on est dans une phase où, si l'économie se met à avoir un peu de vent dans les voiles, on va avoir... hopefully, du long growth, de la croissance des prêts, etc. Et donc tout ça, c'est structurellement aidant et positif pour l'ensemble du continent.
Bon, et puis alors, l'autre rengaine qu'on a entendu pendant des années, l'Europe, il n'y a pas de tech. La tech, c'est le Nasdaq, c'est aux US. Il n'y a pas de raison que j'aille chercher de la tech ailleurs que là où elle se fait le mieux. Là aussi, le secteur tech en Europe, alors il faut le décrire peut-être, ce secteur tech européen, c'est peut-être pas tout à fait le même que le Nasdaq, mais il fait partie des secteurs qui contribuent et qui alimentent la surperformance de l'Europe aujourd'hui.
Absolument. Encore une fois, la composition indicielle, elle est importante, parce qu'on ne remarque pas les choses quand elles sont à 3% de l'indice, mais quand elles deviennent à 8 ou 10% de l'indice, là, les choses changent. Et donc on le voit au niveau de l'indice des large caps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la tech en Europe ? Eh bien, on a quand même, pour une grande partie, on a un écosystème qui est central à l'intelligence artificielle. On le dit peut-être pas assez souvent, mais les fameuses chips Nvidia, que ce soit les Blackwell, la dernière génération ou la génération d'avant, on ne peut pas les fabriquer sans l'écosystème européen qui se trouve en Hollande, en Belgique, etc. Donc ça, c'est numéro un. Numéro deux, après, quand on pense à cette fameuse vague de l'IA... très souvent, on pense tout de suite au Large Language Model et tout de suite, c'est bien sûr OpenAI et Microsoft et les géants. C'est vrai, c'est important. Néanmoins, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est son aspect un petit peu très généraliste. C'est l'application. C'est comment les sociétés... C'est pas les applications qui vont être inventées, c'est toutes les industries qui vont devoir appliquer cette IA elles-mêmes. Donc, quand on voit par exemple des sociétés qui sont... très anciennes, des sociétés fondées au début du siècle dernier. Je pense notamment à la grande agence de pub en France. Et on voit comment elles ont...
Qu'on appelle Publicis, c'est ça ? Oui, non.
Donc voilà, et qui a recentré son business model entièrement sur l'IA. Aujourd'hui, c'est Core AI qui est le fondement de la société. Donc un achat stratégique d'un actif qui détient les data aux États-Unis, qui s'appelle Epsilon. Et du coup, ça change la donne. Donc, quand on pense à l'IA, il faut aussi penser à la data et au savoir-faire qu'ont accumulé pendant des années ces sociétés industrielles européennes et qui ne vont pas disparaître sans prendre grand avantage de ça. Donc, le premier qui va faire ça, et notamment, on pense aussi à des grands secteurs aussi comme la pharma, on entend beaucoup parler, ça prend du temps. Ouais. Et je rappelle que l'indice européen est très lourd en pharma et que l'impact est un impact multimilliard. Ouais.
Mais comme vous dites, le marché a bien conscience, au-delà du phénomène Nvidia, qui restera évidemment l'emblème de cette explosion de la nouvelle génération de l'intelligence artificielle, mais le marché a bien compris que les acteurs qui disposeront de la donnée et de la bonne donnée, on le disait tout à l'heure dans le débat, mais c'est un peu garbage in, garbage out aujourd'hui les modèles, donc si la donnée n'est pas bonne à l'entrée, le résultat n'est pas bon à la sortie, ça c'est un aspect clé du thème d'investissement IA, et la capacité des entreprises à se transformer autour de l'IA. Et là, il n'y a pas de raison que quoi ? Que les entreprises françaises aient moins de qualité, ou européennes, pardon, aient moins de qualité de ce point de vue-là que d'autres entreprises dans le monde ?
Absolument, parce qu'il y a des sociétés qui ont justement ce genre de data. Alors, je citais un exemple, mais il y en a un certain nombre qu'on voit dans les large caps en Europe. qui font qu'effectivement, l'IA devient vraiment un catalyste et un point fort.
Ouais.
Beaucoup plus qu'un point fort. Alors, revenons sur la Valo, puisque on aime bien parler de la Valo, mais là, on a un Valo avec un catalyste. Là, on a des sociétés qui sont du type Nasdaq. Hein. Je rappelle que Linde, par exemple, une société allemande qui était listée en Allemagne et qui est devenue trop large, une market cap trop importante pour le DAX, est partie se lister au Nasdaq.
Bien sûr.
Partie se lister au Nasdaq à un multiple de S&P qui est aujourd'hui a rattrapé le retard et qui traite un multiple de Nasdaq. Donc on a des sociétés qui sont Nasdaq grade, j'ai envie de dire, qui sont comme des sociétés du Nasdaq, et qu'on peut acheter en Europe à des multiples qui sont inférieurs au S&P. Alors, en plus de ça, avec l'aspect barbel, on peut avoir un multiple qui est encore plus faible que le S&P. Je rappelle que le S&P traite à une prime de 40% par rapport à l'Europe et que le Nasdaq traite à une prime de 25% par rapport au S&P. Donc, ça fait quand même beaucoup de discount.
Ah oui, j'adore. On a la qualité du Nasdaq au prix du S&P. Pour certaines entreprises
voire
en Europe.
Voire moins. Mais si on fait un portefeuille barbel.
Ouais. C'est la fin de la discussion, Anis, mais... Ouais, il faut se dépêcher de les acheter et de les valoriser, ces boîtes, parce que comme vous le dites, sinon elles s'en vont. Là, vous avez cité Linde, l'exemple du moment, vous l'avez bien en tête comme tout le monde, c'est Total Energy. Ouais. Et ce que ça crée comme... Mais débat très sain, d'ailleurs, je trouve, à avoir. Hein, oui. Voilà. Oui. Mais attention, parce qu'effectivement...
Alors, je ne pense pas que toutes les boîtes européennes vont aller sur liste aux États-Unis, ce serait pas réaliste.
Elles n'ont pas toute vocation à le faire.
Voilà. Néanmoins, je pense qu'effectivement, ça met vraiment l'attention sur la valorisation.
Ah, ouais. Merci beaucoup, Anis. Merci d'être venu discuter des forces boursières de l'Europe, des nouvelles forces boursières de l'Europe. On trouve des entreprises de qualité Nasdaq pour beaucoup moins cher que celles qu'on paye sur le Nasdaq aujourd'hui aux États-Unis. Anis Lalou, directeur des investissements chez Aperture Investors, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.